Bonjour, bienvenue à l'émission Ciné Brunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de Mélina Lopez-Nado. Bonjour!
Bonjour!
Écoute, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Pour les auditeurs qui nous ont écoutés en direct à CFLX, on a eu, un petit peu particulier. Je vous laisse entendre un peu ce que les auditeurs ont pu entendre. Donc, c'est une musique quand même assez particulière.
Oui.
Bref, une invention de notre système de diffusion.
Voilà, c'est pour ça que Louis n'est pas là aujourd'hui. En fait, on l'a mis au placard.
Mais voilà, mais pour le punir. Hein.
Voilà.
Non, ça n'a rien à voir. Mais dans tous les cas, oui, c'est ça. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Cette émission-là que vous n'avez pas pu écouter sera disponible, et déjà disponible en fait en balado-diffusion dans son intégralité si vous voulez l'entendre. Et sinon, elle sera probablement utilisée durant nos vacances.
Oh, oui.
C'est Félix, donc voilà. Fin de la plaisanterie. Mélina, qu'est-ce qui se passe pour toi cette semaine?
Cette semaine, en fait, vous savez, il y a eu une très grosse canicule. Et donc, j'en ai profité pour aller à maintes reprises profiter de l'air conditionné au cinéma, comme on dit. Et donc, je suis allée voir Les Incroyables 2 en version québécoise, parce que comme c'est des animations, ça me dérange moins de ne pas le voir en version originale, en fait. Et j'ai bien aimé le film, c'est ça.
Film que Louis avait critiqué la semaine dernière, est-ce que tu donnerais une meilleure note que lui?
Exactement, je me souviens pas de la note que Louis avait donnée pour ce film-là, mais je pense que j'irais facilement avec un 7 aussi. Et ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est dans les petits détails, mais c'est au niveau de la signature. Vous savez, quand le film commence, il y a toujours les signatures des maisons de production et de distribution. Donc, il y a toujours le traditionnel château de Disney. Et dans Les Incroyables 2, le fameux château était rouge et avait la couleur des Incroyables. Donc, j'aime bien ça quand on va jouer sur l'infographie de début de film pour lier ça vraiment avec le film qui est actuel. Je trouve que ça fait des beaux clins d'œil et c'est cute.
Eh bien,
et voilà.
Merveilleux. Et moi, de mon côté, ben, écoutez, j'ai quelque chose à vous faire entendre. C'est une bande-annonce.
Oh!
Grandma always said I was a good kid. Every day was Día de los Muertos. Kill or be killed.
I'm getting the fuck out of this business. Be a chef.
This is just my luck. I get jacked by Justin fucking Bieber.
Vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film Kali the Killer de John Matthews. Depuis quelques années, la compagnie Sony, qui est aussi une compagnie de distribution de films, a fait quelques erreurs. Mais là, j'en ai une bonne pour vous. En voulant mettre en ligne cette bande-annonce du film Kali the Killer, ils ont accidentellement mis en ligne le film au complet. Et oui, le film a été disponible pendant plusieurs heures sur YouTube.
T'es pas sérieux.
Et il y a même un gars sur Reddit qui a dit « Encore une bande-annonce qui spoil tout le film. » Mais oui, donc, est-ce que c'est vraiment une erreur? Est-ce un coup de publicité? Le film a actuellement une cote de 3,5 sur 10 sur IMDb. Peut-être qu'on s'est dit qu'il valait mieux faire fuir le film pour justifier une baisse du box-office. En tout cas, selon la théorie du complot, c'est très possible. À suivre.
C'est quand même... C'est étonnant, tout ça.
Oui. Mélina, cette semaine, t'es allée jouer au basket.
Ben oui, cette semaine, j'ai vu le film Oncle Drew, donc en anglais Uncle Drew. Et comme tu dis, c'est un typique film de sport, de basketball en fait. Et donc, je vais vous lire un court résumé et ensuite, je vais vous faire entendre la bande-annonce. Donc, c'est l'histoire de Dax qui souhaite jouer au basketball depuis qu'il est tout petit. Malheureusement, malgré un entraînement acharné, son rêve lui échappe encore et toujours. Maintenant que ses chances de participer au tournoi Rocker Classic viennent de lui être dérobées par son pire ennemi Mookie, ce dernier se retrouve sans équipe et sans espoir. Son coiffeur décide de lui présenter le champion de basketball de son quartier, Oncle Drew. Lorsque Dax se présente devant lui, il est d'abord horrifié que ce soi-disant champion soit en fait un vieil homme qui, pourtant, sait jouer mieux que Michael Jordan en personne. Dax propose à Drew de jouer dans son équipe. Ce dernier accepte à une condition, pouvoir réunir les joueurs de son ancienne équipe. Devenus vieux, aveugles ou même en fauteuil roulant, les amis de Drew acceptent le défi. Mais que peuvent des septuagénaires contre l'équipe de jeunes champions de Mookie? Donc on va aller écouter tout de suite la bande-annonce.
On se souvient tous de cet instant qui nous a permis de croire.
Et il le refait encore, incroyable!
Ce jeu est rempli d'histoires de héros légendaires et comment ils sont nés. Mais là, c'est une autre histoire.
Quoi, tu me regardes dormir encore?
C'est de loin plus intéressant que le câble, ok?
Une minute, là, c'est quoi cette histoire?
J'ai tout mis ce que j'avais dans ce tournoi.
Tu as laissé filer notre superstar chez un autre coach.
Qu'est-ce que ça sent, dites-moi? Ça sent la rancune?
Ça, c'est l'occasion idéale pour Dax de rencontrer Oncle Drew, le plus grand basketteur de rue que j'ai vu de toute ma vie.
Tiens mes noix.
Tiens tes noix?
La seule chose que tu veux, c'est jouer comme Jordan. Hein?
Et toi, tu te prends pour qui? Morgan Freeman?
L'écrase pas devant tout le monde, Oncle Drew!
Un mec comme toi pourrait fusionner ancienne école et nouvelle école.
Ce sera mon équipe et mes athlètes.
Excellent!
C'est quoi, un Game Boy? Un livre électronique?
Allez, on va chercher les copains!
Tout remet l'équipe sur pied, les gars!
Fais gaffe, mon grand!
Allez, je tire!
Allez, t'en mords!
Passe le ballon, Kobe!
Drew, tu m'as dit que ces gars-là savaient jouer. Celui-là, c'est un karatéka! Et là, il fait de la méditation. Le gars qui est là, il voit rien du tout!
Oh non!
Et Dax, et ton équipe de grand-père, alors, t'as donné à chacun de tes vieux un bracelet Medic Alert?
Je sens que t'as encore des doutes. J'ai une surprise pour chacun de vous.
Pour le basket, c'est bon?
C'est trop bon.
C'est maintenant que ça se passe!
On y va!
Quand tu joues comme il faut, tout s'arrange.
Ouais!
Et là, dégage! C'est le moment de vérité, alors tu te dégonfles ou tu t'accroches et tu fonces? Moi, je fais des paniers.
Allez!
Oncle Drew!
Et
toi, t'es qui?
Moi, je veux m'assurer que ce gars-là est assez grand pour se mesurer à mon mec qui s'apprête à lui en mettre une, ouais!
Quelle bande-annonce exceptionnelle!
Oui. Donc, en toute honnêteté, je m'attendais pas à grand-chose de ce film-là. Mais bon, il faut savoir que je suis pas du tout fan de films sportifs, donc c'est sûr que ça va teinter ma critique. J'ai quand même été agréablement surprise par le début du film, parce qu'on a une introduction qui est très dynamique et qui nous accroche à l'histoire, mais malgré tout, on ne réinvente rien avec ce film-là. Le tout reste très classique. Donc, Dax, le personnage principal, était très bon au basket, mais il s'est fait bloquer un tir au but par Mookie il y a genre 20 ans de ça, et depuis, il ne joue plus au basketball, évidemment. Et Dax est maintenant coach, malgré le fait qu'il ne joue plus du tout. Et son rêve est que son équipe remporte le fameux tournoi qui va leur donner une bourse quand même de 100 000 $. Et on a son ennemi, Mookie, qui est super baveux et arrogant avec lui. Il lui vole son équipe et même sa copine. Et je pense que, honnêtement, tout le monde qui m'écoute a une idée de comment le film termine.
Bien.
Puisque, oui. Mais bon, c'est un scénario qui s'est fait vraiment à plusieurs reprises. Sinon, au niveau du basketball, des jeux et des stratégies de basketball en tant que tel, je peux pas vraiment juger parce que ma formation en basketball s'est arrêtée malheureusement trop tôt dans ma vie pour comprendre et vraiment reconnaître le jeu exceptionnel des acteurs dans ce film-là. Mais sinon, faut savoir que c'est pas mauvais comme film. C'est juste un film qui est extrêmement prévisible et qui comporte vraiment de nombreux clichés. Mais il y a quand même des bonnes blagues et certains beaux messages, on s'entend, comme dans tous les films de sport. Et donc, pour ma note, c'est sûr que c'est teinté par la canicule qui a fait cette semaine. Parce qu'on s'entend, c'est un film qui s'écoutait bien, mais...
S'il avait fait chaud dans la salle, ça serait moins bien écouté.
Exactement. Là, le fait qu'il faisait frais dans la salle et qu'il faisait extrêmement chaud à l'extérieur faisait en sorte qu'on appréciait beaucoup plus ce genre de film. Donc, j'y vais avec un 5 sur 10. Pour ce film-là, Uncle bon. Drew, Oncle Drew. Peut-être que les amateurs de basketball vont plus aimer le film ou peut-être moins l'aimer. Qui sait, vous demanderez dans votre entourage aux gens ben oui. qui sont des pros de la balle.
Sinon, c'est un autre film de sport qui finit bien, donc...
Voilà.
Comme c'est surprenant.
Voilà, comme c'est surprenant, exactement.
Merci, Mélina.
Merci. Jim, cette semaine, t'as vu un très bon film. Je dis très bon parce que je l'ai vu moi-même avec toi et que j'ai particulièrement aimé.
Oui, de mon côté, j'ai été voir le film L'école buissonnière, donc comédie dramatique française, coécrite et réalisée par Nicolas Vanier. C'est avec le jeune Jean Scandel, donc on découvre un jeune acteur qui a maintenant 14 ans et qui interprète le premier rôle du film, bien entouré de l'incomparable François Clouzet, le monsieur handicapé dans Les Intouchables, du caricatural Éric Elmosinino, qu'on a vu dans Gainsbourg et qu'on reverra bientôt dans Je vais mieux, mais aussi de François Berléand, qui lui aussi jouera dans le film Je vais mieux. On écoute donc sans plus attendre la bande-annonce du film L'école buissonnière.
Et voilà chez nous.
Vous allez fermer la porte à clé ?
Je pourrais m'échapper.
Pour s'échapper, il faut être enfermé. Et ici, tu l'es pas.
Ma mère, tu la connaissais ?
Non, c'est pas comme ça.
Oh, de ces idées noires de ta calebasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien.
Vous avez pas eu de parents ?
Non.
Alors on est pareil.
Bon, ça n'empêche pas de pousser, hein, tu vois.
Donc, c'était la bande-annonce du film L'école buissonnière. Ça se passe au début des années 20. Le jeune Paul est un jeune orphelin qui en sait peu sur son passé. Mais un jour, Célestine, une femme de garde-chasse qui se charge d'un domaine en Sologne, le récupère dans un orphelinat et l'amène à la campagne. Borel, qui est le garde-chasse du comte de la Fresnaye, tente de traquer les braconniers sur son domaine, en particulier Totoche, joué par François Cluzet. Intrigué par cet homme libre qu'est Totoche, Paul se lie d'amitié avec lui et il lui apprendra tout ce qu'il sait sur la nature, les animaux et la chasse. Peu à peu, Paul réalise qu'il n'est pas là par hasard et que des gens qui l'entourent connaissent plus que lui son passé. D'entrée de jeu, le film est magnifique. Donc, des grands espaces, la nature, la rivière, les animaux, c'est un très beau film à voir, c'est très beau. Ensuite, au niveau des acteurs, ben, le jeu est totalement impeccable. À peu de choses près, j'ai à peu près rien à dire. Les personnages communiquent d'une façon très crédible, ça coule bien avec des touches d'humour comme le fait si bien le cinéma français. L'histoire est belle et progresse d'une manière bien ficelée, on s'attache très vite aux personnages, même aux antagonistes dans ce film-là. Il y a une grande morale d'inclusion et de compassion qui va s'en dégager, sans même qu'on aborde tellement ces concepts-là. Donc, vraiment un bon film. Seul petit bémol, ben peut-être au niveau du montage du film L'école buissonnière, c'est un peu particulier. Je dirais qu'il y a peut-être une mauvaise évaluation là, de ce qu'on pourrait considérer comme étant le climax dans le film. Donc, normalement, les cinéastes vont utiliser une vieille technique qui consiste à utiliser de la musique et monter le son de la musique pour accompagner certains moments clés d'un récit pour, en quelque sorte, rehausser, si on veut, l'espèce d'empreinte émotionnelle du film et de la scène. Et pour ceux qui ont vu le film, ben, la scène du poisson, donc je dirais la grande scène de pêche là, dans le film, où on voit une grande complicité entre Paul et Totoche, qu'on sent peut-être pour la première fois sur un pied d'égalité dans le film. Donc cette scène-là Et elle arrive un peu trop tôt dans le film pour mériter du moins autant l'intensité qu'on lui donne avec la musique puis tout ça. C'est comme, on a l'impression on a vraiment mis le paquet sur le volume de la musique. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon immersion parce que je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Là. C'était comme une espèce de grande scène de retrouvailles, mais c'était pas ça. Donc ça clashait un peu. Puis un peu plus tard dans le film, un peu la même chose, mais à l'inverse. Donc ce que je vais appeler la scène de la grande chasse, sans rien dévoiler. Donc cette fois-là, il y a définitivement matière à faire étirer ce moment-là, à augmenter la musique, à faire, disons, sortir l'intensité. Mais là, c'est l'inverse, ça dure trop peu de temps pour la préparation et les enjeux qui entourent l'action de cette scène-là. On va couper vraiment vite à la suite, qui pourtant n'est pas si intéressante, donc la suite. Donc, c'est peut-être mon léger bémol, mais là, je rentre vraiment dans la profondeur. Là. On s'entend que c'est un film extraordinaire. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Le film L'École buissonnière perd un point dans ma grille à cause de ça, mais je lui donne quand même un 9 sur 10. C'est un film magnifique qui va vous plonger dans la réalité rurale, encore un peu aristocratique des années 20. C'est un film touchant qui fait du bien à voir et en prime, vous allez rire à quelques reprises. Oui. Allez définitivement voir ce film-là, c'est le film à voir en ce moment.
Oui, il faut noter que c'est basé sur un livre, en fait,
oui,
du même nom, et c'est l'auteur du livre qui a réalisé son propre film.
Son propre film, donc, mais ça paraît. Il n'y a pas eu de compromis dans l'histoire, et ça se sent.
Mm-hmm.
On sentait que c'était basé sur quelque chose d'un peu plus grand. Bon, est-ce qu'il y a un peu de biographie là-dedans? On ne saura peut-être jamais, mais dans tous les cas...
C'était vraiment magnifique comme film. Là.
Ouais.
C'est très poétique, mais très beau, très touchant. C'est vraiment un très bon film. Même sans canicule, je vous le recommande fortement.
Absolument. Donc, L'École buissonnière, allez voir ça. Cette semaine, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau du cinéma québécois. Le réalisateur Denis Arcand vient de sortir son film La chute de l'Empire américain, on pourrait dire une continuité au film Le déclin de l'Empire américain sorti à la fin des années 80. Alors, Mélina, veux-tu nous raconter le synopsis?
Oui, donc c'est l'histoire de Pierre-Paul Dubé, 35 ans, qui possède un doctorat en philosophie de McGill. Il est célibataire et solitaire. Il travaille comme coursier pour les services de livraison Colport, puisque le salaire de ceux-ci est plus élevé que celui d'un chargé de cours de philo. Il vit à Rosemont, dans un deuxième étage débordant de livres. En allant livrer un colis dans une pseudo-boutique de vêtements pour femmes, il tombe sur une scène de vol à main armée qui a mal tourné. Deux morts. Il se retrouve devant deux sacs de sport remplis de billets de banque. Plusieurs millions. Pierre-Paul est ainsi confronté à un dilemme. Partir avec les sacs d'argent ou pas?
Écoutons la bande-annonce.
Bonjour, Monsieur Bigrat. Est-ce que je peux aller vous reconduire?
À quel honneur.
J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment trop d'argent.
Tu vas commencer par savoir de combien d'argent tu parles.
C'est deux gros sacs de sport remplis de cash.
T'as pas de bon sens, le gars.
T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi.
Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture.
T'as vu trop de films, toi.
Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent.
La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants.
Where's the money?
Pourquoi vous me dites tout ça?
Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps.
Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé.
Donc, vous venez d'entendre la bande-annonce du dernier film de Denis Arcand, La chute de l'Empire américain.
Voilà.
Alors, on va faire une critique commune de ce film. D'abord, Mélina, qu'as-tu pensé du film?
Oui, avant, j'aimerais juste parler un peu de la distribution de ce film-là, des nombreux acteurs qui jouent dans ce film-là, et acteurs et non-acteurs, car on a Marie-Pierre Morin qui se lance dans le cinéma dans ce film-là. Donc, Marie-Pierre Morin qu'on a connue dans Occupation double et qui ensuite s'est lancée dans l'animation, elle est chroniqueuse aussi.
Mm-hmm.
Et donc, son premier rôle au grand écran. Il y a également Louis Morissette qu'on connaît à la base comme humoriste, mais qui nous a démontré tout récemment dans Plan B
oui,
qu'il n'était pas simplement un humoriste, c'est-à-dire que moi, pour ma part, je le considère maintenant comme un acteur,
oui, c'est un acteur
accompli.
Absolument.
Mais sinon, il y a des gros noms dans ce film-là, donc Maxime Roy, Paul Doucet, Florence Lompré, Yann Englen, Pierre Curzi, Rémi Girard et Alexandre Landry qui joue le rôle de Pierre-Paul.
Donc le premier rôle, ouais.
Le premier rôle de ce film-là.
Et puis, c'était-tu bon?
Et puis, c'était-tu bon? Moi, pour ma part, comme je vais vous dire d'entrée de jeu, j'ai bien aimé le film. On sent que... Écoutez, je suis pas nécessairement ultra familière avec le travail de Monsieur Arcan, mais on sent qu'il se sert de son œuvre, de son film, pour faire passer plusieurs messages. Il y a une grosse partie on met beaucoup à l'avant l'itinérance à Montréal, donc je trouve ça très intéressant d'attirer l'attention sur cette réalité-là qu'on parle quand même peu généralement dans d'autres films, donc l'itinérance à Montréal, mais aussi beaucoup la présence d'Inuit et d'autres Amérindiens qui sont à Montréal. Et il faut dire que le film est précédé d'un court-métrage de Wapikoni Mobile.
C'est vrai.
Que pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était très fort, c'était très bien imagé. Et je trouvais ça très fun qu'on laisse la place à Wapikoni au cinéma. Devant un film qui a autant d'envergure. Donc, on met beaucoup d'emphase là, sur l'itinérance à Montréal. Il y a un petit clin d'œil à ce qui s'est passé pas mal l'automne dernier au Québec avec tous les scandales d'agression sexuelle et de violence sexuelle. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, c'est vraiment un film qui est un éditorial sur plusieurs choses. On a un jeune philosophe qui, dans sa vision de la vie, se questionne. C'est-à-dire que lui ne voit pas comme étant nécessairement mal le fait de prendre les sacs d'argent. Donc, ça rend ça intéressant aussi. Donc, j'ai bien aimé le film. Je suis curieuse de savoir, Jim, qu'est-ce que toi, t'en as pensé?
Écoute, moi aussi, j'ai aimé le film. Il y a des éléments que j'ai aimé plus que d'autres. Je dirais que, bon, si je commence par les moins bons coups, je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi sur ça, mais j'ai un peu pas aimé. J'ai pas beaucoup aimé le jeu d'Alexandre Landry, personnellement. Puis peut-être pas tant le jeu que le personnage comme tel. J'ai trouvé que ça manquait de crédibilité. Le philosophe livreur, bon, personnellement, avec le peu de backstory, là, si on peut dire ça comme ça, qu'on a sur lui, je pense pas qu'il y aurait eu les réactions qu'on lui donne. Donc, c'est, je dirais, l'élément qui m'a le plus dérangé, c'est que la prémisse, j'y crois pas. Mm-hmm. Donc, c'est le problème du film. Après, peut-être c'est juste moi qui est dans le champ aussi, mais je pense pas qu'avec tout le côté nerveux de cette personne-là, avec son côté littéraire, son côté philosophe, justement... Je vois pas pourquoi cette personne-là qui n'a pas du tout l'habitude de l'action, si on veut, ou du moins d'être pris dans une fusillade et des choses comme ça, aurait la réaction de partir avec des sacs d'argent. Ça pour moi, ça n'a aucun sens. Après, bon, on sait jamais. Mais
on sait jamais. Toi, dans cette situation-là, tu ferais quoi? Prendrais-tu les sacs?
Non. Moi, j'attendrais. Moi, j'attendrais que la police arrive. Je me cacherais dans le truck. Mais non, mais parce que tu sais pas là, ce qui peut t'arriver. De toute façon, c'est téméraire de faire ce qu'il fait à ce moment-là. Après, tu me dis, je tombe sur des sacs d'argent qui traînent par terre, comme ça, il n'y a pas personne. Bon, là, effectivement, je serais beaucoup tenté. Mais je me dirais, cet argent-là vient avec son lot de responsabilités et de dangers. Est-ce que je suis prêt dans ma vie à prendre ces risques-là puis que ma vie soit plus jamais la même? C'est une question que probablement il s'est posée avant de partir avec l'argent, puis qui se pose tout au long du film même, jusqu'à un certain point. Mais voilà. Donc, j'ai un peu de misère avec la prémisse, mais j'ai réussi à... parce qu'en fait, le seul élément qu'on donne pour faire passer ça, c'est l'espèce de « j'ai rien à perdre de toute façon ».
Oui.
Mais ça m'a pas convaincu. Mais bon, ça c'est le seul élément, je dirais, qui manque de crédibilité dans le film. Marie-Pierre Morin, contrairement à lui, je trouve que Marie-Pierre Morin est extrêmement hot dans son rôle d'escorte, dans les deux sens. Elle est très bonne, elle est très sexy. On aura beau dire ce qu'on voudra, j'ai même un peu eu des envies d'aller la rejoindre à un moment donné. Mais bon, elle coûte pas mal trop cher pour moi. Donc voilà, non, c'est vraiment surprenant. Je savais pas que c'était la jeune femme de la télé-réalité qui était rendue au cinéma. Mais oui, écoute, je dirais pas qu'elle avait un rôle extrêmement difficile non plus. Mais c'était réussi à ce niveau-là.
Oui, je crois qu'elle a été aussi très bien dirigée justement par M. Arcand.
Ben oui, de toute évidence.
Pour faire ça.
Ouais. Mais c'est bien. C'était convaincant là-dessus. On reconnaît tout au long du film, vraiment le style très éditorialiste de Denis Arcand. Paul aussi a son éditorial, mais c'est une autre histoire. Donc, et d'autres choses, même la musique, le classique d'opéra typique des films de Denis Arcand. Rémi Gérard y est abonné, donc qui est très bon d'ailleurs. Rémi oui. Gérard, j'en parle pas, ben ça va de soi là, mais effectivement,
il est encore oui,
en moteur et ça passe, là, oui. Ça passe très très bien. Il est même peut-être un peu trop doux pour un moteur, mais c'est ça passe super bien.
Oui, il y a quelques, il y a une fameuse réplique qui dit dans le film là.
Oui. Je suis pas menteur, moi je suis un criminel.
Je suis pas un avocat.
Moi je suis pas un avocat. Moi.
Excellent.
Ah oui, c'est très bon. Et c'est ça. Donc l'histoire en elle-même était quand même intéressante. J'ai aimé un peu le côté caricatural des personnages qui pensent toujours juste à leur à eux-mêmes. Donc c'est assez typique. T'sais. Tout le monde dans ce film-là veut s'avantager personnellement, sauf éventuellement les protagonistes. Mais donc ça c'est intéressant. Bon, est-ce que les personnages de Denis Arcand sont là que pour le film? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. J'ai toujours un peu l'impression que dans les films de Denis Arcand, les personnages sont comme un peu dans un rêve, tu sais. Les personnages ne savent rien dehors du film, là. Ce qui les amène là n'est pas si important, autrement dit. Donc, souvent, on va mettre beaucoup d'accent là-dessus. Puis, là, je pense que c'est un peu le syndrome de l'autobus, là. Un chauffeur existe juste pour m'embarquer dans l'autobus. Il n'existe pas. Il n'y a pas de vie en dehors de ça, tu sais. Ça, c'est... Mais ça marche quand même, donc... Ça marche bien, tu sais, puis l'utilisation des acteurs intéressantes. Donc, oui, un très bon film. Je donnerais un 8.5 sur 10 à ce film-là. Franchement, rien à dire de négatif à part que moi, personnellement, en tant qu'individu, j'ai de la misère à croire à la prémisse du personnage principal. Mais sinon, c'est un film qui est le fun à voir, qui va vous faire rire aussi, là. C'est pas si sérieux, ce film-là. Il y a des moments, justement, où on rit, là. Mm-hmm. Ça fait du bien dans un film.
Il y a des très bonnes blagues et c'est particulièrement ciblé au public, aux Québécois, je veux dire... aux gens qui vivent au Québec, on fait plein de clins d'œil à des situations qui se sont passées, donc ça rend ça... C'est ce côté drôle de ce film-là, tous ces petits côtés comiques-là. Là.
Absolument. Donc, excellent film.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti!
Pour la semaine prochaine, donc, on aura un certain nombre de films. Il y aura le film Boundaries, un film, une collaboration canadienne-États-Unis, comédie dramatique réalisée par Shanna Fest, mettant en vedette Vera Farmiga, Christopher Plummer, Lewis McDougall et Christopher Lloyd. Laura est une mère célibataire qui vit avec son fils Henry et une flopée d'animaux errants qu'elle accueillit. Le film Gratte-ciel, un film d'action américain réalisé par Rawson Marshall Tarver, met en vedette Dwayne Johnson, au grand plaisir de Louis, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Kevin Rankin, Roland Muller et Adrian Holmes. Will Ford, ancien leader de l'équipe de libération d'otages du FBI et ancien vétéran de guerre, est maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels, est affecté en Chine à protéger un bâtiment tout spécial. Pour un public un peu plus jeune, peut-être, Hôtel Transylvanie 3, je savais même pas qu'il y en avait eu un deuxième, donc réalisé par Jendy Tartakovsky, Mavis surprend Dracula en lui offrant un voyage en famille sur un bateau de croisière afin que celui-ci puisse prendre des vacances bien méritées. Le reste de la bande de Dracula ne peut s'empêcher de l'accompagner. On a la voix d'Adam Sandler, d'Andy Samberg, de Selena Gomez, de Kevin James et compagnie dans ce film. On a aussi Ni juge ni soumise, un documentaire franco-belge d'Yves Inan et de Jean Libon. Les réalisateurs ont suivi pendant 3 ans une juge de Bruxelles, Anne Gruez, au cours de différentes enquêtes criminelles. Sinon, le film Pendule, donc un drame brésilo-argentin qui met en vedette Paquel Caro, Rodrigo Bolzan, Neto Machado, tout du monde qu'on connaît pas, réalisé par Julia Murat. Un jeune couple s'installe dans un énorme loft vide. Une bande orange collée sur le sol sépare l'espace en 2 parties identiques. D'un côté, le studio de danse de la femme et de l'autre, l'atelier de l'homme. Raph ma girafe, un film des Pays-Bas, réalisé par Barbara Bredero, qui met en vedette Liam de Vries, Egbert... Jan Weber, Mehdi Brockman et tous des noms que j'arrive pas à prononcer. Patterson, un petit garçon, a un très grand ami, Raph, une girafe. Ils sont nés le même jour, vivent l'un à côté de l'autre et sont inséparables. Sorry to Bother You, une comédie fantaisiste d'américaine en attente de classement, réalisée par Boots Riley. Un démarcheur téléphonique peu confiant en lui découvre une clé magique du succès qui va lui faire gravir les échelons de la hiérarchie au moment où ses camarades activistes s'élèvent contre l'injustice. Et finalement, Whitney, ça vous dit quelque chose? Un documentaire musical, production Grande-Bretagne-États-Unis, réalisé par Kevin MacDonald. Elle a vendu 200 millions d'albums. Elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus vendu par une chanteuse. On parle évidemment de...
Whitney Houston.
Exactement. Donc, voilà. Alors, à venir la semaine prochaine. C'est déjà, ça dépend toujours à quelle heure vous êtes levé, mais c'est déjà la fin de cette émission de Cinébrunch pour cette semaine, 39e épisode. La semaine prochaine sera le 40e. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en rediffusion tant et aussi longtemps que vous le désirez sur notre site web cinébrunch.com, sur iTunes directement de votre téléphone avec l'application Balado ou encore sur Google Play Music. Mais surtout... Rendez-vous sur notre page Facebook pour nous faire vos commentaires si vous en avez. Et on va essayer d'être un peu plus assidus sur les articles sur notre page Facebook. Dans tous les cas, il fait chaud. C'est parfait pendant les canicules pour aller voir des films au cinéma. Je vous recommande fortement d'aller voir le film...
Une école buissonnière.
Qui, maintenant que j'y pense, son nom est un peu particulier. Je le comprends, mais ça n'a pas été si utilisé dans le film là, comme tel. Mais bon...
Hein? Donc, il fait l'école dans les buissons, c'est ce que tu
dis. Ça, il fait l'école dans les buissons. Il aime beaucoup la nature. Voilà, un film à voir pour tous les amoureux de la nature et tous les autres. Voilà, beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent la semaine prochaine. On vous dit donc à la semaine prochaine pour une autre édition de Cinébrunch. Préparez votre popcorn, samedi 11h. À la semaine prochaine!
À la semaine prochaine!